depuis des années et sont devenus assez récemment un phénomène de mode.
Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un.
Oh oui, et un beau.
Le côté obscur, je perçois en toi.
Non, Bélix, pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit.
Loading, avec Sonia et Elodie, sur Radio Campus 3.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, le jeudi en direct 20h-21h, le samedi en rediffusion 13h-14h et sur campus3.fr. Bonjour Elodie.
Bonjour Sonia.
Comment va ?
Ça va bien.
Alors, qu'avons-nous au sommaire de cette nouvelle émission ?
De cette nouvelle émission, oui. tellement de choses au programme. On va commencer avec l'actualité jeux vidéo, ensuite on parlera d'un jeu de dés. Pour ensuite enchaîner sur un forum RP, puis une bande dessinée, sans oublier l'actualité cinéma, et notre petite rubrique nostalgie animée.
Animé nostalgie. Je vous parlerai d'un dessin animé des années 80.
Et on finira avec une série toute récente.
Ok. Eh bien c'est parti. Dans l'actu jeux vidéo, la sortie le 9 avril de Dangerous Driving, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. C'est développé et édité par Three Fields Entertainment. C'est un jeu de course à la manière d'un Burnout. Le jeu propose un mode Battle Royale automobile, un mode en ligne jusqu'à 8 joueurs, un mode poursuite, un mode survie et une trentaine de courses et ainsi que 26 véhicules à déverrouiller. De la vitesse, des takedowns, des dérapages et des crashs, vous allez pouvoir conduire très dangereusement. Dangerous Driving, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. La sortie le 11 avril de Pathway, disponible sur PC et Mac, c'est développé par Robotality et édité par Chucklefish. C'est un RPG stratégique se déroulant dans les années 1930 au cœur du désert. Formez une équipe de courageux aventuriers, aventurez-vous dans les déserts et explorez des bunkers et temples d'Afrique du Nord pour révéler leurs trésors cachés et leurs secrets avant qu'ils ne tombent entre les mains des forces nazies. Unissez vos forces afin de surmonter tous les obstacles, affrontez vos ennemis dans des combats au tour par tour et faites face à des choix difficiles. Parfois, l'échec est le meilleur chemin vers la victoire. Pathway, c'est disponible sur PC et Mac. Et enfin, la sortie le 11 avril de Deck of Ashes, disponible sur PC. C'est développé et édité par AY Games. C'est un jeu d'aventure et de cartes. Un personnage mène une équipe d'anti-héros lors d'une quête vers la rédemption. Explorez un monde de fantasy maudit et traquez les cartes les plus puissantes. Mettez vos compétences de survie et de gestion des ressources à l'épreuve quand vous améliorez le camp de vos alliés. Les choix qui jalonnent votre aventure, quelle destination, quelles ressources obtenir, quels risques à prendre et quelles cartes créer vous mèneront à la réussite ou vous précipiteront vers la mort. Réussirez-vous à débarrasser le monde de la malédiction de Cendre ? Deck of Ashes, c'est disponible sur PC. Voilà pour l'actu jeux vidéo. On passe à la musique et puis ensuite tu nous parleras donc un jeu avec des dés.
Oui,
d'accord.
Des zombies.
Et des zombies, des dés et des zombies. On écoute un petit Queen avec Seven Seas of Rye et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Vas-y Elodie, parle-nous de ce jeu de dés.
Qui s'appelle Zombie Dice, voilà, zombie dés quoi.
Tout simplement.
Tout simplement. Alors c'est un petit jeu qu'on pourrait appeler jeu d'apéro, c'est un jeu qui se joue très facilement et très rapidement, une partie dure environ un quart d'heure. Ça va, ça se joue de 2 à 8 joueurs.
Et les règles sont pas très longues.
Non, parce que généralement quand le jeu est court, les règles sont pas très longues non plus. Donc vous êtes un zombie.
Ok.
C'est sympa de jouer un zombie pour une fois et pas essayer de s'échapper. C'est vous qui allez attaquer. Et ce que vous voulez, c'est des cerveaux, parce que les cerveaux, c'est bon. Et donc, plus que vos copains autres zombies. Et donc, pour essayer d'en avoir plus qu'eux, il va falloir donc lancer les dés et bien tomber sur les bons dés. Donc, il y a 13 dés qui sont personnalisés et qui sont vos victimes. Sur ces dés, vous allez trouver des cerveaux. miam miam. Des fusils. Aïe, là ça fait mal. Et le fusil, j'en parlerai après, c'est pas très bon. Et des coups de poing, parce que ouais, les humains ils se défendent un peu.
Oui,
donc c'est un peu une problématique. Donc chacun son tour, vous allez piocher 3 dés dans la boîte. Donc les verts, parce que vous avez différentes couleurs pour les dés, à chaque fois il y a toujours des cerveaux, des fusils ou comme des coups de poing dessus. Donc vous avez les verts qui sont des victimes faciles, donc il y aura plus de cerveaux que de coups de poing et de fusils. Les jaunes qui sont un peu plus compliqués et les rouges qui peuvent être un souci un peu plus conséquent pour vous. Et donc, si vous avez des cerveaux, c'est cool et il faut en avoir le plus possible. Par contre, si vous tombez sur un coup de fusil, vous allez devoir arrêter là. Et donc, vous n'allez pas forcément récupérer les cerveaux que vous pouviez avoir. Vous avez pris un coup de fusil, donc vous partez en fait, hein, vous vous carapatez. Et puis, le coup de poing, ça vous fait relancer les dés. Donc, justement, en relançant les dés, vous allez pouvoir, notamment en relançant les coups de poing, peut-être avoir de nouveaux cerveaux. Mais il faut se dire que si vous avez tiré un des rouges, il n'y a pas de chance que vous tombiez sur un cerveau, c'est possible. Mais vous pouvez aussi tomber sur un fusil. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous relancez ou non les dés et ce que vous gardez ou non comme cerveau. Voire des fois, vous n'avez pas de chance, hein, vous lancez le dé et tout de suite, vous êtes déjà tiré dessus. Donc, voilà. Et du coup, on va jouer comme ça à tour de rôle. Je ne sais plus combien de tours, mais un certain nombre de tours. Et puis après, on va noter celui qui a le plus de cerveau aura gagné. Donc, ce n'est pas un jeu très compliqué. Un petit jeu qui peut faire passer le temps pendant l'apéro. Donc, je le rappelle, comme j'ai dit, ça se joue de 2 à 8 joueurs. Ça dure un petit quart d'heure. Et puis, ça se joue... c'est marqué à partir de 14 ans. C'est pas très compliqué quand même. Je pense qu'avec des enfants, on peut. Sauf que ça dépend s'ils connaissent les zombies ou pas, s'ils en ont peur ou pas.
Oui. Mais il n'y a que des dés, du coup, dans le
c'est une boîte avec un mort-vivant dessus et des dés. Du coup, la boîte vous permet de mélanger les dés.
D'accord.
Voilà, et de piocher dedans.
C'était simple en fait à faire comme.
Oui. c'est pour le coup. C'est...
Oh, il y a pas de carte, non. Il y a que des.
Non, il y a que des dés et voilà. C'est pas très compliqué, c'est pas prise de tête. Bon après c'est très aléatoire puisque effectivement c'est la chance qui va faire que vous allez tirer les bons dés ou pas. Et après c'est à vous de voir si vous êtes chanceux ce jour-là ou non et si vous relancez les dés ou si vous vous arrêtez là pour conserver les cerveaux que vous avez.
C'est bien ça parce que c'est un petit jeu qu'on peut emmener partout quoi.
Ah oui,
la
oui.
Voiture.
Oui.
Voilà, il ne faut pas que trop que ça bouge.
si, on peut
l'emmener partout. Quoi.
Oui, on peut l'emmener partout.
Très bien.
Ah, c'est presque un jeu de bar, on pourrait dire, un jeu de comptoir.
C'est ça.
Voilà.
Ça s'appelle ?
Ou un jeu de salon. Zombie Dice.
Zombie Dice. Voilà. Très bien. Et puis, bien sûr, sur notre blog loadingradio.wordpress.com, il y a le petit visuel.
Oui, qui va bien. Oui, d'ailleurs, c'est la boîte.
C'est la boîte.
Voilà, c'est la boîte.
Ok. On passe à nouveau à la musique et puis ensuite je vous parlerai d'un forum roleplay. Il n'y a pas de zombies, mais il y a des dents pointues, entre autres. on écoute Gérald Gentil avec Licence to Kill et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et on passe maintenant au forum roleplay à l'honneur cette semaine. Un forum qui s'appelle The Crescent City. Un forum inspiré de diverses œuvres, films et séries sur l'occulte. Humains, vampires, métamorphes, médiums, sorciers, que choisirez-vous d'incarner à la Nouvelle-Orléans ? Voilà.
Oui, ok.
Tout un programme. Au niveau des graphismes, on est plutôt du côté sombre de la force, avec des tons de gris foncé. Alors c'est un forum qui n'est pas très très vieux, il a à peine un mois, il est sorti le 16 mars dernier. Il y a déjà 18 membres enregistrés quand même dessus. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer sur ce forum ? Eh bien vous avez plusieurs groupes, 5 groupes en tout. Alors vous avez le groupe des Only Human, donc ce sont des humains sans aucun don. Alors certains humains sont des chasseurs de surnaturel, donc vous pouvez également chasser certaines créatures en tant qu'humain. Voilà. Mais vous n'avez aucun don. Vous avez le groupe des Bloodseekers, alors ça c'est le groupe des vampires, bien sûr, les vampires aux dents pointues, qui ne sortent pas la journée, sauf s'ils ont une bague où ils peuvent sortir.
C'est très
dans la lumière.
Pompé sur True Blood.
Voilà. Bah, c'est un peu tout ça, hein. C'est vraiment.
Ah non, en même temps, la Nouvelle-Orléans, c'est aussi la Nouvelle-Orléans, il me semble.
Je ne sais pas, je ne regardais pas trop bien.
Il me semble.
Vous avez le groupe des psychics. Alors ça, c'est des médiums. Donc ce sont des humains ayant la capacité à communiquer avec les défunts et uniquement les fantômes. Vous avez le groupe des shapeshifters. Alors ça, ce sont les métamorphes, des créatures capables de se transformer en un animal. Vous avez enfin le groupe des spellcasters. Donc ça, ce sont le groupe des sorciers. Voilà, vous allez pouvoir choisir l'un de ces cinq groupes et puis évoluer donc sur ce forum. Alors au niveau des annexes, c'est quand même pas mal de choses à lire, notamment au niveau de la description des groupes qui est assez détaillée sur les vampires, sur les sorciers, vraiment quelque chose de très très détaillé. Vous avez également la chronologie, puisque je crois que les sorciers et les vampires ne s'aiment pas trop. Vous avez tout un vestiaire avec des photos, enfin plutôt des gifs animés qui font un petit peu peur d'ailleurs. Au niveau des bêtes que vous allez pouvoir rencontrer, il y a un petit peu tout, il y a des démons, des dryades, etc. Voilà, vous avez vraiment un bestiaire avec bien sûr la petite image. Vous avez également les clans, puisque vous pouvez évoluer en clan dans chacun de ces groupes, clan de vampires par exemple. Les origines des surnaturels, d'où est-ce que ça vient. Également toute une description sur la Nouvelle-Orléans, le climat qu'il fait, voilà. Tout ça. Le conseil et ses lois, puisqu'il y a des lois également à respecter dans chaque groupe, on va dire. Et puis vous avez également un lexique, et puis le lexique des protections magiques, puisque vous allez pouvoir avoir des protections magiques, par exemple les balles en argent contre les vampires, vous avez également de la sauge qui sert à purifier une pièce. Enfin, tout ça, c'est détaillé dans ce lexique des protections magiques. Voilà. Et puis, bien sûr, sur ce forum, il y a des intrigues qui sont mises en place par le maître du jeu. D'ailleurs, en ce moment, il y en a une. Et puis, vous allez pouvoir vous faire une petite idée de ce forum en allant voir, par exemple, les roleplays qui sont déjà écrits ou en cours d'écriture. Ça, vous pouvez les lire, il n'y a pas de problème. Alors, attention, c'est quand même un forum qui est interdit aux moins de 16 ans, puisqu'il peut y avoir des choses un petit peu... Voilà, quand il y a des vampires, en tout cas, on ne sait jamais.
Comment ça ? Je ne vois pas du tout.
Non, tu ne vois pas du tout. Ça va être un petit peu érotique.
Ce sont des êtres charnels.
Oui, mais... voilà.
Les vampires.
Donc, un forum qui date du 16 mars dernier, 18 membres enregistrés. Il faut écrire 350 mots minimum dans chaque roleplay, donc interdit aux moins de 16 ans. Et pour aller... sur ce forum, eh bien vous tapez thecrescentcity.forumactive.com. Vous n'avez pas eu le temps de noter. Ce n'est pas grave, puisque nous avons un blog.
loadingradio.wordpress.com.
Voilà, et vous allez... Voilà, qui est à jour, vous allez dessus. Vous avez le petit lien qui vous emmène donc à la Nouvelle-Orléans dans cet univers assez sombre, on va dire. Voilà en ce qui concerne ce forum roleplay à l'honneur cette semaine.
Ils ont toujours la cote, les vampires.
Oui, il y a beaucoup, beaucoup de forums. Alors, c'est sur diverses choses. Hein. Alors, des fois, c'est que des vampires, mais là, il y a vampires, sorciers. En général, c'est vrai que c'est assez mélangé. Il y a pas mal de loups-garous vampires aussi, au niveau des forums. Voilà, il y a pas mal de choses, c'est vrai.
Qu'est-ce qu'il y en a sur Stephen King ?
Oh, il doit y en avoir, oui.
T'as jamais parlé, qui prendrait une œuvre ou un univers ou,
je crois que j'en ai vu un. Je ne sais plus.
Shining, ou je sais pas quoi.
Non, c'était pas Shining. Je me demande si c'était pas ça.
Ah oui, ça prête bien, oui.
Oui. Faire un enfant qui a peur des clowns. Pourquoi pas. Non, mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que, on va dire, presque chaque semaine, il y a des nouveaux forums qui arrivent. J'essaye de vous parler des derniers, on va dire, pour pas que vous ayez 3 ans à rattraper de forums. Mais quelquefois, c'est possible que je parle d'un forum qui a 1 an, 2 ans, qui est très, très bien. Voilà. Donc, on passe à la musique. Et puis, ensuite, eh bien, on parlera
d'une bande dessinée, d'une saga, en fait, qui n'est pas toute jeune. D'ailleurs, je vais regarder si je trouve la première année de parution. Mais voilà, je vais vous parler de Soda. Rien à voir avec
la série,
l'humoriste, rien du tout, quoi.
D'accord. On écoute Alanis Morissette avec 21 Things I Want in a Lover. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading en direct le jeudi 20h-21h, en rediffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Elodie, tu nous parles d'une BD.
Oui, je vais vous parler de Soda, qui est donc une saga puisqu'elle compte jusqu'ici 13 tomes.
Ah oui,
peut-être prochainement un 14e. Et du coup, j'ai regardé la première édition date de 1986.
Ah oui, et d'accord, c'est pas tout jeune.
Non, c'est pas tout jeune. Et le dernier a été édité en 2014, okay. Pour le moment. Alors, Soda, surtout, il faut pas dire à sa mère qu'il est flic. Parce que sa chère mère le croit pasteur. Et David Elliott Annette Salomon, qui est son vrai nom, d'où le diminutif Soda, ne tient pas à voir sa vieille maman morte d'inquiétude chaque fois qu'il part en mission. Les rues de New York sont si peu sûres, comme dit sa maman. Alors pour ne pas l'effrayer, il change de tenue dans l'ascenseur, planque son flingue dans les toilettes et ses revues pas très catholiques sous son oreiller. Dur métier, surtout quand un tueur à gages est prêt à tout pour récupérer un billet de $100 tombé par hasard entre les mains d'un sans-abri. Donc effectivement, Soda, ça parle donc de... Je reprends son nom parce que je ne le connais pas par cœur. David Elliott Annette Salomon, qui est donc flic, comme son père pouvait l'être. Et en fait, son papa a été tué. Et donc, depuis, sa mère, elle ne veut surtout pas que lui devienne flic. Et puis en plus, elle a des problèmes cardiaques, donc il faut lui éviter d'être malmené. Et donc, il lui cache en disant qu'il est pasteur. Et comme je l'ai expliqué, en fait, il vit avec sa maman. Sa maman est venue vivre avec lui à New York. Et du coup, il sort habillé en pasteur. Et dans l'ascenseur, je ne sais plus combien d'étages il a à descendre, il se change en flic. Et vice-versa, le soir, il se rechange en pasteur, et ainsi de suite. Donc, c'est assez rigolo parce qu'il il essaie toujours de trouver des combines quand il revient avec un coca. C'est difficile d'expliquer certaines choses à sa maman. Et donc, il y a, je l'ai dit, 13 tomes qui sont sortis. Et donc, je les ai lus à la suite, parce qu'il y a très longtemps, j'avais découvert Soda dans le journal de Spirou, puisque c'était publié dans le journal de Spirou. Et là, je les ai repris depuis le début. Et là, c'est vachement bien. Et dans ces 13 albums, ils arrivent à chaque fois à se renouveler. Parce qu'effectivement, on pourrait penser que c'est un peu comme les séries policières, et qu'à la longue, on va se lasser, que c'est toujours le même schéma. Là, c'est pas tout le temps le même schéma. Il y a cette petite particularité où, du coup, avec sa maman, faut pas qu'il montre qu'il est pasteur. Et lui et sa maman deviennent très attachants. Et les scénarios qui ont été imaginés sont vraiment chouettes et on pourrait dire que ça serait super en film. Vraiment, ça pourrait être adapté au cinéma. Et justement, en 2009, il y a un réalisateur, Nicolas Barry, qui dit qu'il voulait faire une adaptation de Soda. Donc il a obtenu les droits et normalement il espérait tourner en 2010. A priori, ça s'est toujours pas fait. Donc, c'est toujours... En 2018, on en reparlait à nouveau. Donc, peut-être qu'un jour, on verra Soda sur grand écran. Je ne sais pas si ça sera aussi bien que la bande dessinée. Alors, c'est une bande dessinée vraiment dans la tradition de la bande dessinée franco-belge. Oui. Totalement. Alors, ce qui est rigolo dans cette saga, parce que donc elle est assez longue, elle a débuté en 86, c'est qu'il y a eu 3 dessinateurs différents. Vous avez le premier qui est Luc Varnunt, qui ensuite a laissé sa place à Bruno Casotti. Bruno Casotti, j'en ai déjà parlé, il est connu pour la bande dessinée Seul. Et effectivement, on retrouve bien son trait. J'adore sa façon de dessiner à Bruno Casotti. Et là, dernièrement, lui, du coup, il a donné le bébé à un autre dessinateur qui s'appelle Dan Verlinden. Et l'auteur de tout ça s'appelle Philippe Thaume, que l'on connaît parce que Tom et Jean-Ry, non, ça ne te dit rien. Ils ont fait des Spirou et des petits Spirou.
D'accord.
Donc voilà, donc c'est également donc l'auteur de Soda. Et normalement, il y a un 14e tome qui doit sortir, mais on ne sait pas quand. Ça a pris du retard, je ne sais pas pour quelle raison. Sachant que la dernière fois, donc, c'est sorti en 2014. Donc on ne sait pas s'il y aura... Parce que le dernier tome nous laisse vraiment dans une situation où on aimerait bien savoir... bah, ce que va faire Soda, quoi. Donc, sans en dévoiler trop.
Parce que, en fait, chaque tome, il y a une fin quand même dans chaque tome ou...
Oui, oui, il y a. Alors, souvent, souvent, c'est qu'une seule histoire. Il y a des fois des petits éléments qui se suivent d'un tome à l'autre, sur deux tomes uniquement. Mais non, il y a une fin à chaque fois. On sait pourquoi, par exemple, l'autre, il cherchait à tout prix ce billet de 100 dollars qui avait l'air très important. Donc, chaque affaire est résolue. Mais il y a une continuité dans la vie de Soda où on apprend des choses sur lui, sur son père, et puis également sur la relation qu'il peut avoir peut-être avec une collègue. Voilà, on apprend différentes choses sur sa vie. Mais on peut lire, on peut très bien lire un album tout seul de Soda sans forcément avoir tout lu. Mais vraiment, je me souvenais que c'était bien, mais là d'avoir tout lu, je regrette de pas avoir tout lu ça avant.
D'accord.
Lu tout ça avant. Je sais pas si j'ai dit dans le bon sens. Voilà. Donc Soda, je vous le conseille vivement. C'est très chouette. Et donc alors je vais citer tous les dessinateurs. C'est de Philippe Thaume. Donc au dessin, Lig Varnon, Bruno Gazzotti et Dan Verlinden. Et donc je vous conseille vivement cette saga. Ils sont tous à la médiathèque, de trois.
Très bien, on écoute de la musique avec Radiohead, Karma Police. Et on se retrouve après pour parler cinéma avec les sorties ciné à trois, l'actu tournage. Est-ce qu'on a envie vraiment de voir les films qui sont dans l'actu tournage? Peut-être. La petite rubrique animé nostalgie où je vous parlerai et spoilerai la fin d'un dessin animé des années 80 où il faudra retrouver la musique du dessin animé. Et puis on finira avec toi avec une série récente, c'est ça?
Oui, série Netflix.
Très bien. On écoute Radiohead, Karma Police et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. On passe maintenant à l'actualité cinéma. Quels sont les films au CGR A3 cette semaine? Eh bien, il y a tout d'abord Alex, le destin d'un roi, réalisé par Joe Cornish avec Louis Serkis et Tom Taylor. Alex est un écolier ordinaire de 12 ans dont la vie va être bouleversée par la découverte de l'épée mythique Excalibur. Il doit à présent former une équipe de chevaliers composée de ses amis, de ses ennemis et du légendaire Merlin l'Enchanteur afin de contrer la maléfique Morgane venue du Moyen-Âge pour détruire le monde. Alex devra alors se transformer mais en un héros qu'il n'a jamais rêvé de devenir. Alex, le destin d'un roi, c'est à voir actuellement au CGR A3. L'incroyable aventure de Bella, réalisée par Charles Martin Smith avec Bryce Dallas Howard et Ashley Judd. L'incroyable voyage d'un chien prêt à parcourir plus de 600 km pour retrouver son maître, un jeune étudiant en médecine. Voilà, l'incroyable aventure de Bella, c'est à voir actuellement au CGR A3. Il y a un autre film qui sort également cette semaine, Le Vent de la Liberté, réalisé par Michael Bully Herbig avec Friedrich Munch et David Cross. En 1979, en pleine guerre froide, deux familles ordinaires d'Allemagne de l'Est rêvent de passer à l'Ouest. Leur plan, construire une montgolfière et survoler la frontière. Une histoire incroyable, une histoire vraie. Le Vent de la Liberté, c'est à voir actuellement au CGR A3. Autre film qui sort cette semaine, film d'animation Royal Corgi, réalisé par Ben Stassen et Vincent Castellout. Les aventures de Rex, le chien préféré de sa majesté, qui perd son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la reine l'amènera à affronter de nombreux dangers, mais aussi à rencontrer l'amour. Royal Corgi, c'est à voir également en ce moment au CGR A3. Un film d'horreur qui sort également, Cimetière. Alors attention, c'est interdit aux moins de 12 ans. C'est réalisé par Kevin Kolsch et Dennis Widmeyer. C'est avec Jason Clarke et Mi Seimetz. Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs deux jeunes enfants quittent Boston pour s'installer dans une région rurale du Maine. Près de sa maison, le docteur découvre un mystérieux cimetière caché au fond des bois. peu après, une tragédie s'abat sur lui. Creed sollicite alors l'aide d'un étrange voisin, Jude Condroll. Sans le savoir, il vient de déclencher une série d'événements tragiques qui vont donner naissance à de redoutables forces maléfiques. Cimetière, c'est à voir actuellement au CGR et c'est interdit aux moins de 12 ans, attention. Un autre film qui fait son grand retour, Tanguy, le retour, réalisé par Étienne Chatillez avec André Dussolier, Sabine Azéma et Éric Berger. 16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zou sous le bras, car Maïline l'a quitté. Catastrophée de voir leur tout petit dans cet état, Paul et Edith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents. Tanguy, le retour, c'est à voir actuellement au cinéma, au CGR. Une sortie décalée cette semaine, la sortie de Dernier Amour, réalisée par Benoît Jacquot avec Vincent Lindon, Stacy Martin et Valeria Golino. Voilà, sortie décalée de ce film Dernier Amour. Également, la sortie décalée d'un film d'animation, La Petite Fabrique de Nuages, réalisé entre autres par Gildardo Santoyo del Castillo. Voilà un petit film qui dure trois quarts d'heure, film d'animation.
Je dirais un petit film pour un grand nom.
Non, c'est juste qu'il y a beaucoup de réalisateurs. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. J'en ai juste dit un parmi tant d'autres. Voilà. et puis également de l'opéra. Vous allez pouvoir voir au cinéma de l'opéra avec Macbeth, réalisé par Harry Kupfer. Ce sera mardi 16 avril à 19h30. Ça dure 2h40. Donc voilà. Et puis des avant-premières. L'avant-première de After chapitre 1, réalisé par Jenny Gage avec Joséphine Langford et Hero Feinstein. Ce sera vendredi 12 avril à 20h. Avant-première également d'un film d'animation Monsieur Link, réalisé par Chris Butler. Ce sera dimanche 14 avril à 11h. Et puis également une troisième avant-première, La Malédiction de la Dame Blanche, réalisée par Michael Chavez avec Linda Cardellini et Raymond Cruz. Ce sera mardi 16 avril, deux horaires, 20h et 22h15, donc pour La Malédiction de la Dame Blanche. Du côté, du coup, de l'actu tournage, eh bien, ça y est, on entend parler qu'il y a un préquel de Grease est en développement. Oui. La Paramount vient d'annoncer un projet un peu inattendu, donc un préquel de Grease qui se prépare. Derrière ce projet est rattaché le scénariste John August, l'homme derrière le scénario de Charlie et la chocolaterie. Rien à voir. Et c'est lui qui aura la lourde tâche de signer le script de ce nouveau film. Réalisé par Randall Kleiser en 78, Grease fait partie maintenant de ces incontournables de la comédie musicale, une œuvre pop, un classique inéluctable de toute une génération qui a, avec notamment La Fièvre du Samedi Soir, lancé la carrière de l'acteur John Travolta. Olivia Newton-John est par contre un peu plus relativement tombé dans l'oubli. Le long métrage donnera même une suite, hein, portée par une équipe totalement différente. Patricia Birch à la réalisation et Maxwell Caulfield et Michelle Pfeiffer en tête d'affiche. Dans la première partie de Grease, les personnages Zuko et Olson racontent leurs vacances d'été et une histoire en rapport avec la chanson Summer Night. Eh bien, l'histoire de ce préquel est donc censée reprendre ce passage du film. Alors, on ne sait pas encore si le casting va revenir faire un petit coucou hein, dans le préquel, mais Grease reste encore aujourd'hui une œuvre emblématique du 7e art et un titre durable pour la Paramount. Alors, les chansons continuent de faire partie de la culture populaire, tandis que le film est régulièrement réédité dans des éditions spéciales. Quant au scénariste John August, il est bien occupé, hein, puisqu'il est crédité notamment en ce moment sur Aladdin, la reprise live de Disney, mais également sur Scary Stories to Tell in the Dark, des histoires courtes produites par Guillermo del Toro. Alors, il n'y a pas encore de date de sortie pour ce préquel de Grease, donc affaire à suivre.
Je ne sais pas comment ils vont combler les trous, parce que c'est pas, elle n'est pas énorme, l'histoire.
Bon, ils trouveront toujours quelque chose.
Ils vont broder autour, quoi.
Oui, voilà. Ouais. Et puis on apprend que Francis Ford Coppola, enfin prêt à faire son Mégalopolis. Alors si vous vous intéressez un petit peu au projet maudit des grands noms d'Hollywood, eh bien vous avez peut-être déjà entendu parler de Mégalopolis de Francis Ford Coppola. Et lorsqu'on sait de quoi ça cause, on comprend que les studios soient un petit peu réticents à l'idée d'investir des sommes folles pour le produire. Alors Coppola a imaginé une grande fresque de science-fiction dans laquelle New York a été ravagée par un cataclysme. Catilina, un architecte, souhaite partir de la base restante pour construire City World, une cité utopique permettant aux hommes de s'accomplir. Son plan va être mis à mal par Frank Cicerion, maire de New York. Chacun souhaite reconstruire sa ville pour assouvir ses propres ambitions personnelles. Alors, Coppola a quand même commencé à plancher sur ce scénario en 1984, alors qu'il sort
plus vieux que Soda.
Ouais, ouais. Alors qu'il sort tout juste du titanesque Apocalypse Now, il accouche d'un script de plus de 200 pages qui a de quoi faire peur à n'importe quel investisseur. Son récit ample croise intrigues politiques et lutte des classes tout en se servant d'un monde futuriste pour taper sur le monde contemporain. Alors il ne manque pas d'idées, c'est une certitude, mais aucun financier n'osera mettre les pieds dans cette affaire à moins d'être fou. Alors Coppola est condamné à mettre son manuscrit dans un tiroir et à attendre. Et au tout début des années 2000, eh bien, on croit que le film est sur le point de se faire. Et du coup, eh ben, coup du sort, il y a les attentats du 11 septembre qui touchent l'Amérique. Donc les tours jumelles sont abattues, un scénario qui parle de la reconstruction de New York, c'est pas trop le bienvenu à cette époque-là. Voilà, on le remet dans le tiroir. Et du coup, eh bien, maintenant, on rapporte que le projet est de nouveau d'actualité et que le scénario est prêt. Alors, c'est le principal intéressé qui l'évoque directement. Il dit « Oui, j'envisage cette année de débuter l'ambitieux projet que j'ai depuis de longues dates et je compte utiliser l'expérience emmagasinée dans ma longue carrière, débutée à 16 ans, pour y arriver. Ce sera une grande histoire épique que j'ai intitulée Mégalopolis. » Alors, il promet que son film sera soutenu par une grosse distribution, ce qui devrait aider à le monter financièrement. On évoque un peu le nom de Jude Law pour le rôle principal, mais bon, l'information tient plus de la rumeur qu'autre chose hein, pour l'instant. Donc prudence tout de même. Tant que la production n'a pas débuté, l'optimisme n'est pas de mise. Une œuvre aussi complexe et dont le passif n'incite pas à l'optimisme peut mettre encore quelques années avant d'arriver dans nos salles. Souvenez-vous de Don Quichotte de Terry Gilliam qui a mis tellement de temps.
Oui, puis qui pour un résultat.
Ah oui, c'est décevant.
Décevant, ouais. Bon. Lost in La Mancha est vachement mieux.
Oui, c'est vrai. Voilà. Mais bon, chacun se fera une idée là-dessus. Oui. On en arrive donc à notre petite rubrique animée nostalgie où je vais vous parler d'un dessin animé des années 80. Et oui, Elodie, peut-être ne te souviens-tu plus de ce dessin animé ? C'était pas forcément un dessin animé hyper connu, mais bon, pourquoi pas ? Peut-être que tu l'as connu. Alors, eh bien, ça faisait comme ça.
Gigi ?
C'est pas le titre entier.
C'est Gigi Magique, non ? C'est pas ça ? Comment c'est déjà ? J'ai le 45 tours. Mais c'est pas celle-là, je crois. Fantastique Gigi ?
Non, c'est Julie, mais il y a quelque chose avant.
Magique Julie ?
Non.
Super Julie ?
Non. Ça a été dit au tout début de la chanson.
Ouais, mais je peux pas tout suivre.
Claude Lombard, hein, qui a fait... voilà. Qui a fait beaucoup, beaucoup de génériques de dessins animés.
Oui.
Et donc c'est Vas-y Julie.
Ah, Vas-y Julie. Oui. Bah, c'est pas Gigi, non, c'est pas la même
pas
chose
du
alors.
Du tout,
ah,
du
oui,
tout,
c'est
du
ça,
tout.
Moi j'avais dit Gigi.
Non.
Ah non, mais je connais... Ah, mais si, son robot.
Oui.
Je me souviens du robot.
Donc Vas-y Julie, c'est un animé japonais de 45 épisodes de 22 minutes.
Oh, c'est long.
J'ai tout vu.
Ils ont autre chose en même temps, hein, à vous.
C'était dur. Surtout le début. La fin, ça a été, mais le début, c'était dur. Alors en France, eh bien, ce dessin animé, il a été diffusé à partir de septembre 88 sur la 5 dans l'émission Youpi, l'école est finie. Oui, il y avait des bons dessins animés dans Youpi, l'école est finie. Mm. Alors l'histoire, donc, c'est l'histoire de Julie, qui est une petite fille très intelligente qui passe son temps à bricoler toutes sortes d'inventions. Elle va jusqu'à créer deux petits robots, tout d'abord Floppy, et puis sa petite sœur Flappy, beaucoup plus petite, qui deviendront ses meilleures amies. Alors grâce à son intelligence, Julie est déjà au collège et elle va tomber amoureuse d'un garçon de sa classe qui s'appelle Michel. Et celui-ci, c'est un passionné de moto, un peu le bad boy. Il s'intéresse absolument pas à l'école et il a l'habitude de pas trop assister aux cours. Voilà en gros l'histoire. Donc, moi j'ai trouvé ça un peu bizarre. Il y a des petites incohérences dans ce dessin animé. Donc, alors déjà, je veux dire, plus de la moitié du dessin animé est consacré à la relation entre Julie, son robot, et Michel. Et à chaque fois qu'elle voit Michel, et ben elle fait « Oh, Michel ! Michel !» Et j'en peux plus, à la fin. Je ne pouvais plus entendre ce nom dit comme ça, mielleusement. « Michel !» Je ne pouvais plus. Donc voilà, plus de la moitié quand même de cette série, il y a 45 épisodes, hein, je le rappelle, est consacrée donc à Floppy. Floppy qui n'aime pas Michel, Michel qui n'aime pas Floppy. Finalement, ils vont bien s'entendre, voilà, bref. Et Julie qui est folle amoureuse de ce garçon qui est beaucoup plus âgé qu'elle, puisqu'elle est très petite et c'est la seule petite de sa classe, donc la seule plus jeune de sa classe. Et je me demande d'ailleurs comment elle a pu sauter les classes pour arriver au collège, puisqu'elle n'est pas si intelligente que ça en cours. Elle sait fabriquer, alors par contre elle fabrique des robots, voilà, elle est vraiment intelligente sur tout ce qui est mécanique et tout ça. Mais comment elle en est arrivée au collège? Parce qu'elle n'est pas forcément très bonne à l'école. Et Michel, lui, il a redoublé, donc c'est le plus vieux de la classe. Donc je dirais qu'il y a quand même une grosse tranche d'âge entre les deux qui peut limite penser, je vais dire, à de la pédophilie. Surtout à la fin. C'est assez particulier, je veux dire.
T'as pas mis de photo de Michel, c'est pas quoi ça, Michel.
Tu peux taper, vas-y, Julie Michel, tu verras. Michel, c'est le beau gosse brun, voilà, tout simplement. Alors donc, ça se regarde encore plutôt pas mal. Les robots sont sympas, d'ailleurs, la petite Flappy est doublée par Brigitte Lecordier, elle est tellement mignonne. Ça lui va tellement bien, la voix de Brigitte Lecordier dessus. Et Michel est doublé par Patrick Borg, qu'on avait rencontré à Reims. Voilà.
Ah oui, elle est vraiment petite, il est vraiment vieux.
Oui. Et donc, Julie est vraiment amoureuse de Michel. Michel s'en fout un petit peu au départ et tout. Et puis finalement, il va y avoir une relation qui va naître entre eux, mais une relation d'amitié. Et puis, à un moment donné, Michel va partir en Angleterre étudier. Et ça va lui réussir, puisqu'il va revenir 4 mois après à nouveau au Japon pour revoir Julie. Et il sera beaucoup plus sérieux, il veut vraiment réussir ses études en Angleterre. Et comment ça se finit? Eh bien justement, Michel revient à la fin et va demander à Julie de lui prêter Floppy pour l'emmener en Angleterre et puis qu'il puisse le montrer là-bas des ingénieurs ou je ne sais quoi, voilà. Donc, eh bien, Julie va ne pas vouloir vraiment au début et finalement, elle va laisser Floppy aller avec Michel en Angleterre. Et elle va rester toute seule avec Flappy. Voilà, tout ça est tout. Vraiment, il y a vraiment des petits épisodes entourés avec sa famille, parce qu'ils ont un restaurant, etc. Voilà.
Souvent un restaurant.
Il y a beaucoup de restaurants.
Dans les dessins animés japonais, souvent. Hein, ils ont souvent un restaurant.
Et voilà, à la fin, y a une petite séquence photo avant que Michel parte. Et il y a cette scène où Julie saute sur Michel et lui fait un bisou. Voilà, c'est assez étrange.
Oui.
Mais bon. Bah, écoute, hein, c'est vrai que bon, ils vont bien ensemble finalement, mais avec leur grande différence.
T'as dit que c'était une amitié.
C'est une grande amitié, oui. Ouais. Mais il s'attache vraiment plus à elle vers la fin quand il revient. On voit qu'il y a plus que de l'amitié, quand même.
Du coup, elle a grandi.
Non, elle n'a pas grandi. Elle a grandi. Mais elle fait plein de robots, plein de trucs différents. Bon, voilà, c'est amusant à voir. Vous pouvez voir tous les épisodes sur YouTube.
Oh, au joie.
Les 45 épisodes et vous allez.
22 minutes, hein, c'est fou. C'est long.
Oui, c'est long. C'est long. C'est très long.
Michel.
Ah non, j'en pouvais plus. est-ce qu'on passe à la musique? Oui, on va passer un peu de musique et ensuite tu nous parleras d'une série en une minute chrono. Hein.
Ouais, qui ne parle pas de parapluie.
D'accord.
Son nom.
On écoute Two Trains Left, When You Finally Know. Et on se retrouve tout de suite après pour la fin de cette émission Loading. Suite et fin de l'émission Loading. Elodie, parle-nous d'une série.
Je vais vous parler de The Umbrella Academy, qui est donc sortie sur Netflix, dont on a entendu pas mal parler. Donc nous sommes en 1989, le même jour. 43 bébés sont inexplicablement nés de femmes qui n'étaient pas enceintes. En tout cas, pas le matin même, mais qui accouchait d'un enfant le soir. Et rien ne relie toutes ces femmes. Sir Reginald Hargreaves, un industriel milliardaire, adopte 7 de ses enfants et crée The Umbrella Academy pour les préparer à sauver le monde. Mais tout ne se déroule pas comme prévu, les enfants devenus adolescents, la famille se désagrège et l'équipe est dispersée. Les 6 membres toujours en vie, désormais trentenaires, se retrouvent à l'occasion de la mort de Hargreaves, donc leur père adoptif. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vania et numéro 5 travaillent ensemble pour résoudre le mystère qui entoure la mort de leur père. La famille désunie se sépare cependant de nouveau, incapable de gérer des personnalités et des pouvoirs trop différents, sans même parler de l'apocalypse qui les menace. Donc effectivement, alors moi j'ai voulu regarder parce que je trouvais que c'était rigolo ces femmes qui n'étaient pas enceintes et qui le soir même accouchaient d'un enfant. Donc ils ont des pouvoirs, sauf une qui a priori n'en a pas. Il y a effectivement une fin du monde qui s'annonce et ils vont essayer de faire en sorte que cette fin du monde n'arrive pas. Donc c'est encore un truc de super-héros finalement. C'est très convenu, donc il y a 10 épisodes. J'ai vu les 10, il y aura une suite. Une saison 2 a déjà été annoncée, hein. Elle est déjà en préparation, en tout cas elle va pas tarder. Alors j'ai aussi regardé parce qu'il y a Ellen Page dedans, qui est vachement bien. Et Robert Sheehan, je sais pas comment on le prononce, qui jouait Nathan dans Misfits.
Oui, d'accord. Voilà. Il fait
qu'on aime bien.
Chose.
Voilà, et que l'on retrouve là. Donc, Umbrella Academy, c'est issu d'une bande dessinée. Alors, ça n'a pas inventé l'eau chaude, hein, clairement. Il n'y a pas grand chose qui surprend dedans, mais moi, je me suis attachée au personnage. C'était pas désagréable à regarder. Voilà. C'est pas la série de l'année, mais c'est pas désagréable à regarder. C'est bien joué, c'est bien filmé. Il y a des effets spéciaux qui vont bien. Voilà, si vous aimez les super-héros, voilà. C'est okay. Sympathique. Non, je regarde l'heure aussi, je peux pas en dire beaucoup plus. Voilà, donc je vous spoil pas tout ça, mais c'est très convenu. Voilà, ça n'invente rien, mais c'est sympathique à regarder.
Et donc, on attend une suite. Quand
et on attend une suite, oui.
Okay.
Donc, ah bah, vu la fin, là, oui, okay. Il y a une suite. J'en dis pas plus, hein, voilà. Parce que vous serez peut-être surpris par des choses. Moi, je l'ai pas trop été, mais voilà.
Très bien. Eh bien, nous, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, eh bien, jouez bien, amusez-vous bien, regardez bien des séries, des films, plein de choses. Allez, ciao, ciao, bye bye.
Ciao.